Et le journal vous est donc présenté par Antoine Maret. Bonsoir Antoine.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Lifeline pourra finalement accoster à Malte. Le bateau de l'ONG allemande du même nom attendait depuis une semaine un port susceptible de l'accueillir. À son bord se trouvent 233 personnes migrantes, dont une partie va être prise en charge par l'Italie. En Espagne, l'ouverture du procès dans l'une des affaires les plus marquantes du franquisme, des milliers de nouveau-nés soustraits à leur mère et confiés à des familles d'adoption. Emmanuel Macron au Vatican, le chef de l'État rencontrait le pape François cet après-midi. Midi, il a reçu le titre de premier chanoine, de la basilique Saint-Jean de Latran. Une affaire de cambriolage et de viol sur fond de préjugés antisémites jugée depuis ce matin devant les assises du Val-de-Marne. Les faits s'étaient déroulés à Créteil en 2014, mais un accusé manque à l'appel car il est en fuite. Lifeline pourra finalement accoster à Malte, c'est ce qu'a annoncé le chef du gouvernement italien Giuseppe Conte. Le bateau de l'ONG allemande du même nom attendait depuis une semaine un port susceptible de l'accueillir. À son bord se trouvent 233 personnes migrantes, dont une partie va être prise en charge par l'Italie, c'est ce qu'a annoncé Giuseppe Conte. De son côté, le gouvernement maltais ne dément pas les affirmations de Rome, mais une source proche de ce gouvernement précise que Malte autorisera le débarquement seulement après que les États membres confirmeront qu'ils prendront leur quota de migrants. Bonsoir Pierre Benazet.
Bonsoir Antoine.
Vous êtes notre correspondant à Bruxelles. Alors on apprend à l'instant que le Portugal est prêt à accueillir une partie des migrants du Lifeline. Donc beaucoup d'informations qui circulent entre les capitales européennes. Et une fois de plus, l'Europe a bien du mal à parler d'une seule voix.
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Même si, au sujet du Lifeline, tout s'est fait dans la plus grande discrétion, alors que le sort de l'Aquarius avait été au centre d'une vraie cacophonie. On avait même entendu voler des noms d'oiseaux au sein de l'aréopage des chefs d'État et de gouvernement de l'UE. Il faut dire que, entre-temps, les 10 chefs d'État et de gouvernement ont tout du moins, ou tout du moins 16 d'entre eux, ont eu l'occasion de se parler, autrement que par communiqués incendiaires, lors du mini-sommet de dimanche sur la politique migratoire. Et l'accueil du Lifeline à Malte est peut-être le premier résultat concret du sommet informel. La conclusion principale de cette réunion, c'était l'idée qu'en l'absence d'une vaste réforme de politique migratoire et de droit d'asile pour l'Europe, les crises devraient être résolues au cas par cas, entre deux pays ou plus. C'est la solution de repli que préconisait Angela Merkel et c'est en fait ce qui s'est passé autour du Lifeline. Le Premier ministre maltais, Joseph Muscat, a remercié les institutions européennes pour leur assistance. Le président du Conseil européen et le président de la Commission ont proposé leurs bons offices. Ils ont multiplié les consultations avec plusieurs gouvernements, Malte et l'Italie évidemment, mais aussi France et Portugal. Les migrants à bord du Lifeline seront soumis à un passage au crible. Il résultera en un rapatriement des migrants économiques et en une répartition entre plusieurs pays européens, dont l'Italie et le Portugal, de ceux qui pourraient prétendre à l'asile dans l'UE. Cette décision prise à quelques-uns, malgré l'implication de la Commission et du Conseil, relève plutôt du plus petit commun dénominateur. Et pour l'instant, la politique migratoire ressemble à l'écueil sur lequel viendrait s'échouer le projet européen.
Merci à vous, Pierre Benazet. Et c'est par la Libye que transitent de nombreux migrants. La Libye qui a été, elle aussi, durement touchée par Daesh. Il y a 2 ans, quasiment jour pour jour, des jeunes de Misrata lançaient leur offensive à Sirte. L'État islamique avait fait de cette ville son califat en Libye. Les combats avaient été très violents, mais au final, la ville avait été libérée avec l'aide de combattants venus de tout le pays et de frappes américaines. Et c'est 6 mois plus tard que la victoire avait été célébrée. 1 an et demi après cette victoire, notre correspondante en Tunisie, Maureen Mercier, a pu se rendre à Sirte comme envoyée spéciale de la RTS, la radio-télévision suisse, et elle a constaté sur place l'ombre de Daesh est toujours là.
L'université vient de rouvrir, encore un bâtiment sur 2 est miné. Tout le matériel a été pillé par l'État islamique ou détruit durant la guerre pour le déloger de Sirte.
On a besoin d'aide pour notre université, mais d'abord pour la ville. Les gens reviennent, mais ils n'ont plus de maison.
À côté de ce professeur, la vice-maire de Sirte.
Aujourd'hui, 3000 familles n'ont plus de toit. Il a fallu une guerre pour réussir à chasser l'État islamique d'ici. C'était nécessaire. Mais maintenant, tout est démoli et personne ne nous tend la main. Il y a 2 gouvernements en Libye. C'est très compliqué. Du coup, on n'a plus d'interlocuteur du tout.
Même moi, je n'ai plus de maison. Elle a été entièrement détruite.
Comme tant d'autres, ces femmes avaient dû fuir leur ville, transformée en califat par l'État islamique. Aujourd'hui, enfin de retour à Sirte, leur thérapie, c'est d'essayer d'en rire. Vous avez peur que Daesh revienne ?
Ça nous terrorise.
Il y a beaucoup de gens qui affirment qu'ils attendent juste de pouvoir reprendre le contrôle de la ville. C'est bien pour ça que je vous dis qu'on a besoin d'aide, parce qu'on a peur que ça recommence.
Un autre homme, autour de la table, intervient.
Ils viennent d'attaquer la route. Je les ai vus moi-même, armés, avec leurs barbes. C'était Daesh, clairement.
C'était quand ?
Oui, ce samedi.
And you're laughing.
Oui, je suis obligée d'en rire, sinon je meurs.
Lui, c'est Mahmoud. Nous l'avions rencontré durant la guerre contre l'État islamique il y a un an et demi.
Non, je n'ai pas encore réussi à faire revenir ma famille. C'est trop risqué à cause des maladies.
Le problème, c'est tous les cadavres qui n'ont pu être récupérés et qui pourrissent encore un an et demi après dans les ruines.
On n'avait jamais vu cela avant. Il y a des problèmes de peau terribles. La chair se détache toute seule. Et puis, il y a une augmentation incroyable du nombre de cancers. Tout ça me fait tellement mal. Voici mon neveu. Il a dû faire la guerre contre Daesh. Regardez sa peau.
Sur son cou, sa peau se détache. 33 ans, des yeux clairs et plein de colère. Pour lui, je représente la communauté internationale.
Vous n'êtes venu nous aider en bombardant qu'à la fin de la guerre, alors que Daesh est une menace pour le monde entier.
Vous êtes fâché, hein ?
Oui, très. Cette guerre, vous l'avez faite juste pour protéger l'Europe de l'État islamique. Vous avez bombardé et vous nous avez laissés ainsi. La différence entre vous et moi, c'est que vous, vous allez repartir ce soir, alors que moi, je vis à Sirte.
Reportage signé Maureen Mercier à Sirte. C'est un passé bien douloureux auquel l'Espagne fait face, l'un des dossiers le plus sombre du franquisme, ce que l'on a appelé les bébés volés. Des milliers de nouveau-nés soustraits à leur mère et confiés à des familles d'adoption. Et le premier procès de ce scandale national s'est ouvert ce matin. Inès Madrigal a 49 ans et elle en est persuadée, elle a été volée à ses parents biologiques. Face à elle, le docteur Vela qu'elle accuse de l'avoir vendue à ses parents adoptifs. À Madrid, le reportage de notre correspondant Mathieu de Taillac.
Il s'est installé péniblement sur sa chaise pour répondre aux questions de la procureure et des avocats. Répondre, c'est un bien grand mot. À 85 ans, le docteur Eduardo Vela s'exprime avec difficulté pour dire qu'il ne se souvient de rien ou de si peu. Par exemple, quand on lui demande qui s'est occupé des papiers d'Inès Madrigal lors de sa naissance.
De la historia, sûrement.
Le dossier, c'est peut-être moi qui l'ai fait, si ce n'était pas la sage-femme. Tant d'années sont passées.
La version intelligible est donc celle d'Inès Madrigal, interrogée juste après lui. Elle raconte les explications données par sa mère avant qu'elle ne décède.
Eduardo Vela a dit à mes parents qu'il y avait une fille très jeune et de bonne famille qui était enceinte et qu'il allait leur donner son bébé. Il a dit à ma mère qu'ils allaient simuler une grossesse avec des coussins. Le docteur lui a d'ailleurs dit de ne pas aller chez le coiffeur, que les gens devaient remarquer et qu'elle présentait les symptômes de la grossesse, qu'elle ait l'air d'avoir des nausées ou des vertiges.
Le procureur réclame 11 ans de prison contre le docteur Vela, la partie civile 12 ans. Il l'accuse d'enlèvement d'enfants et de falsification de documents officiels. Inès Madrigal est consciente qu'en raison de son grand âge, il pourrait éviter la prison, mais elle croit ouvrir la première brèche judiciaire pour commencer à apporter une réponse à un scandale national qui concerne des milliers de personnes et a été passé sous silence pendant des dizaines d'années.
57 minutes, c'est le plus long entretien accordé par le pape François à un chef d'État ou de gouvernement, en l'occurrence Emmanuel Macron. Cet après-midi, le président français a reçu le titre de premier chanoine de la basilique Saint-Jean de Latran, titre qui remonte à Henri IV, mais dont François Mitterrand et François Hollande n'avaient pas pris possession. Emmanuel Macron a évité d'aborder le terrain glissant de la laïcité. Sur place, le reportage de Mathilde Imberti.
Contrairement à Nicolas Sarkozy en 2007, Emmanuel Macron a choisi de ne pas faire de discours dans la basilique Saint-Jean de Latran. Le président français s'abstient également de faire le signe de croix ou de chanter durant la courte liturgie. Il prend la parole à la fin d'une cérémonie rapide, pas plus de 30 minutes, pour préciser le sens de sa venue.
J'ai décidé d'accepter cette invitation, car elle appartient à une tradition de concorde, d'amitié entre la France et le Vatican, à laquelle je suis attaché. La présence du chef de l'État français souligne la volonté de la France d'approfondir les relations d'amitié, de compréhension, de confiance qu'elle entretient avec le Saint-Siège, comme je l'ai évoqué ce matin avec Sa Sainteté le Pape François.
400 personnes environ, des Français de Rome, ecclésiastiques ou laïcs, assistent à la prise de possession du titre de chanoine d'honneur du Latran. Une cérémonie compatible avec la laïcité, s'est défendu le président français un peu plus tard, en s'adressant à un parterre restreint de Français. Nous ne pouvons pas avancer si nous ne savons pas d'où nous venons, et le lien particulier entre la France et le Latran, c'est une part de cette histoire, a-t-il ajouté. Fin de la séquence vaticane pour le président français, dont le temps fort restera l'audience avec le pape François, près d'une heure d'une discussion intense et libre, a précisé l'Élysée, sur les thèmes de l'immigration, du climat, du dialogue interreligieux et de l'avenir de l'Europe, alors que les 27 se déchirent sur la gestion de la crise migratoire.
La suite du procès de trois membres d'une même famille du Loiret accusés d'avoir rejoint l'État islamique ou d'avoir organisé des départs de jeunes femmes. Ils encourent jusqu'à 10 ans de prison et aujourd'hui au tribunal correctionnel de Paris, on a pu entendre notamment l'un des trois prévenus, elle s'appelle Sana. Elle a évoqué sa période passée en Syrie et en Irak et sa radicalisation. Sur place, le récit de Florence Turme.
C'est un récit entrecoupé de silence et de sanglots, de mots de honte et de regrets. À la barre, pantalon et t-shirt noir avec une bande de strass sur l'épaule, cheveux longs attachés en queue de cheval, la jeune femme livre une histoire à la fois édifiante et connue. Un mariage sur Skype avec Samir Etoun, le principal prévenu dans ce dossier, et elle part le rejoindre en Syrie. « Ma radicalisation, explique-t-elle, s'est faite en 6 mois, je ne trouvais plus ma place nulle part. » À Raqqa, elle passe ses journées à dormir, à regarder des vidéos de propagande sur son téléphone portable. J'avais rien, juste un Coran, pas de produits d'hygiène, rien. Elle raconte aussi la peur de mourir, de se retrouver seule, d'être livrée à d'autres hommes, le choc des réalités sur place. Je ne supportais plus de faire partie de ces gens-là. Le président l'interrompt, mais ces vidéos où l'on vous voit entièrement voilée, tirée avec une kalachnikov. J'étais obligée, répète-t-elle en pleurs. Évoque au passage les attentats de Charlie Hebdo, j'étais dans un salon avec d'autres femmes et elles ont toutes crié « Dieu est grand ». J'ai honte, ajoute-t-elle, et je suis en colère contre moi. Aujourd'hui, elle réfute les propos que le journaliste David Thompson a repris dans son livre « Les revenants ». Selon lui, elle considère son séjour en Syrie avec autant de légèreté qu'une année Erasmus. Mais elle admet une rechute dans un salafisme radical à son retour en France. Le président s'arrête sur la photo de sa fille de 18 mois vêtue d'un niqab. Les relations qu'elle maintient avec d'autres personnes en relation avec la mouvance djihadiste. Désormais, elle travaille comme agent d'entretien dans un hôpital, a réussi les écrits des concours d'infirmières, attend le résultat des oraux. Son enfant, suivi dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative, aura 3 ans en août prochain.
Et les réquisitions viennent tout juste de tomber. Donc, Sana, 5 ans d'emprisonnement, dont 3 avec sursis, requis contre la jeune femme. Le père de famille, 3 ans et 6 mois de prison ferme et bandade dépôt à l'audience. Et enfin, le troisième prévenu, le fils, réquisition. Donc, 10 ans d'emprisonnement, une période de sûreté des 2/3. Autre procès qui a débuté aujourd'hui devant les assises du Val-de-Marne, une affaire de cambriolage et de viol sur fond de préjugés antisémites. Les faits s'étaient déroulés à Créteil en 2014. Mais un accusé manque à l'appel car il est en fuite. Le récit de cette première journée d'audience avec Charlotte Piret.
4 jeunes hommes âgés de 21 à 26 ans ont pris place dans le box vitré de la salle d'assises. Ils sont issus du même quartier à Créteil, habitent les mêmes immeubles. Pas des amis, disent-ils à l'audience, plutôt des connaissances, des mauvaises fréquentations selon leurs parents. On se disait bonjour comme ça, raconte l'un d'eux. Ils ont en commun des parents venus d'Algérie, du Sénégal ou du Mali, des frères et sœurs qui travaillent, dessinateurs dans le cinéma pour l'un, employés de banque pour l'autre, mais pas eux. Quelques stages, un peu d'intérim, mais pas d'emploi stable. « J'ai 5 enfants, c'est le seul qui a flanché », résume un peu dépité un père à la barre. Par flancher, entendez des condamnations, des faux de permis, vol, trafic de drogue, jusqu'à ce cambriolage chez une famille juive de leur quartier, les violences sur le couple présent dans l'appartement ce jour-là, et même le viol de la jeune Laurine, très émue par le récit des faits à l'audience. Des faits que les accusés, qui encourent 30 ans de réclusion, ne reconnaissent que partiellement et pour lesquels tous réfutent en cœur la circonstance aggravante d'antisémitisme. « Ce vous les juifs, vous mettez pas l'argent à la banque », lors du cambriolage. Une phrase qui est cependant imputée à un 5e homme absent du box puisqu'il a fui en Algérie quelques jours à peine après les faits.
C'est l'une des conséquences de la guerre commerciale que se livrent depuis l'élection de Donald Trump, les États-Unis et l'Europe. Harley Davidson veut délocaliser une partie de sa production, notamment en Thaïlande et au Brésil, pour échapper aux taxes européennes mises en place vendredi dernier en réponse aux taxes américaines sur l'aluminium et l'acier. Le mythique fabricant de motos a d'ores et déjà fait le calcul. Ces taxes lui coûteront 85 millions d'euros. et le prix d'une Harley en Europe va augmenter de 1800 euros environ. Ce manque à gagner va-t-il rendre la politique commerciale menée par l'administration Trump impopulaire au point de devoir l'adoucir? Ça n'est pas l'avis de Grégory Vanel. Il est professeur d'économie à l'école de management de Grenoble et docteur en économie internationale.
Harley-Davidson, bon, c'est une marque célèbre, mais ce n'est pas un poids lourd industriel ni aux États-Unis ni dans le monde. Donc il est fort probable que le manque à gagner en termes d'emploi aux États-Unis soit assez faible. Et en plus, pour Harley-Davidson, pour l'entreprise elle-même, ça ne va peut-être même pas se voir, si ce n'est que pendant quelques mois, il y aura, une file d'attente un peu plus longue en Europe pour avoir accès à des motos, hein. Alors, ça va se voir au niveau peut-être local et probablement dans les comtés où Trump a été élu. Mais l'impact, il est symbolique. Évidemment, il y a des gens qui vont probablement à perdre leur emploi ou en tout cas avoir des cadences de travail plus faibles. Mais d'un point de vue macroéconomique, au niveau américain, il y a assez peu de chances que ça se voit, hein. En revanche, Trump a annoncé qu'il allait probablement faire augmenter les tarifs douaniers sur les voitures qui sont assemblées en Europe. Donc une taxe de 20%, en gros, sur les 10 premiers importateurs européens de voitures, vous en avez 5 qui sont allemands. Donc là, il y a un gros danger pour l'industrie automobile allemande. C'est bien plus puissant, hein, qui serait bien plus fort que les quelques milliards de dollars de taxes là actuellement que l'Union européenne a mis en contrepartie de l'augmentation des tarifs sur la métallurgie.
Grégory Vanel au micro d'Olivia Cohen. La Commission européenne publie aujourd'hui son rapport annuel sur les barrières au commerce et à l'investissement, justement, rapport qui montre que les mesures protectionnistes ne font qu'augmenter dans le monde. Il y en a eu 67 de plus cette année et c'est la Chine qui détient le record dans ce domaine, Marie Vienneau.
Et oui, alors que le président chinois fait ces derniers temps beaucoup de déclarations pour se présenter en héros du libre-échange, il est intéressant de constater que dans les faits, la Chine est le pays qui a le plus bénéficier du libre-échange ces 20 dernières années, mais est aussi celui qui impose le plus de mesures protectionnistes. La Commission européenne en répertorie 396 dans le monde en 2017, 67 de plus qu'en 2016, et au palmarès des pays qui ont le plus levé de barrières au commerce l'an passé, c'est la Russie qui arrive en tête avec 36 nouvelles mesures, deuxième la Chine, 25, puis dans l'ordre, l'Indonésie, l'Inde, le Brésil, la Corée du Sud, les États-Unis arrivent septième ex aequo avec la Turquie, avec 20 mesures protectionnistes nouvelles en 2017. Pour la moitié, ces nouvelles barrières sont des mesures de protection phytosanitaire et concernent les produits agricoles et de la pêche. Pour l'autre moitié, ce sont des taxes sur certains produits, comme celles que Donald Trump a mises en place sur l'acier, mais aussi des règles limitant l'accès des entreprises étrangères à certains secteurs. Le président américain ne fait donc qu'accentuer un mouvement qui dépasse largement les États-Unis. Et le plus inquiétant, finalement, c'est ce grand écart entre les paroles et les actions que la Chine n'est pas la seule à pratiquer. 9 pays qui ont le plus créé de barrières au libre-échange en 2017 font partie du G20. Or, le G20, à chaque rencontre, rejette le protectionnisme dans son communiqué final. À l'opposé, l'Union européenne, toujours bonne élève en ce domaine, a, elle, retiré 45 barrières au commerce en 2017 et c'est même 25 de plus qu'en 2016.
Merci à vous, Marie Vienneau. On va peut-être vous allez apprendre ce nouveau mot, électronisme. Sachez que près d'un quart des Français n'est pas à l'aise avec le numérique. On appelle cela donc l'électronisme, autrement dit l'illettrisme numérique. Bonsoir Éric Chabroux.
Bonsoir.
Alors cette étude CSA commandée par le syndicat de la presse sociale éclaire cette nouvelle forme de fracture sociale et évoque notamment une catégorie de personnes qualifiées d'abandonnistes.
Oui, ces abandonnistes déclarent avoir renoncé à faire quelque chose dans l'année écoulée parce qu'il fallait utiliser Internet. Ils sont près d'un tiers des personnes interrogées, y compris des jeunes. Et ce renoncement est d'autant plus préoccupant que le gouvernement vise par exemple à dématérialiser la totalité des services publics d'ici 4 ans. Les outils ne sont a priori pas en question car la très grande majorité des Français sollicités ont en particulier un smartphone. Les usages et d'autres facteurs seraient en cause, d'après Philippe Marchal, le président du syndicat de la presse sociale.
Il y a effectivement une question d'éducation, d'apprentissage, d'accès, quand les gens sont amenés par leur travail à accéder quotidiennement à Internet, ça va être plus facile pour eux, parce qu'il y a une certaine défiance, parce que les gens considèrent que c'est trop compliqué, les cheminements des sites sont parfois un peu abscons, et le monde digital n'est pas tout rose, et puis l'image qu'il a conduit les gens à s'en méfier dans certains cas.
La multiplication des fausses informations et des scandales liés à nos données privées renforcerait aussi un électronisme revendiqué. Mais la majorité de ces abandonnistes aimeraient progresser et cherchent à se faire aider. Le syndicat de la presse sociale souhaite maintenant sensibiliser les pouvoirs publics, lancer un laboratoire d'idées à ce sujet avec des sociologues et des psychologues. Et il envisage une charte avec les professionnels du web pour développer des sites plus clairs.
Merci à vous, Éric Chavroux. Sachez que la Cour administrative d'appel de Paris vient de confirmer la décision de justice rendue fin 2017 qui annulait l'encadrement des loyers alors en vigueur à Paris. Les requêtes déposées par l'État ainsi qu'une association demandant l'annulation du jugement ont été rejetées. Les températures vont tranquillement grimper. Demain, c'est à Cherbourg qu'il fera le plus frais avec 20 degrés l'après-midi, 29 à Paris, 34 à Aix. Quant au ciel, c'est très simple, pas un nuage à l'horizon nulle part. C'est la fin de cette édition préparée avec Jean-François Braun. Prochain journal à 22h, présenté par Kevin Baudreau.